podcast France Culture.
Son ami Reynaldo Hahn disait de Proust et de lui qu'ils étaient deux jeunes gens vieillots. Eh bien, le jeune puis moins jeune homme vieillot que fut Marcel Proust n'a pas nécessairement vécu dans la vieilloterie. Il utilisait le téléphone, dont les opératrices donnent lieu à une grande scène comique dans La recherche du temps perdu, mais aussi la toute récente automobile, sans parler du théâtrophone. C'est sur eux et bien d'autres objets que se penche François Saltiel dans Le meilleur des mondes.
Le meilleur des mondes, François Saltiel.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Le meilleur des mondes, l'émission qui analyse la manière dont le numérique et les nouvelles technologies bouleversent nos vies. Et ce soir, nous vous proposons un numéro très spécial puisque nous participons à une grande opération organisée par France Culture autour de la commémoration du centenaire de la mort de Marcel Proust. D'ici novembre 2022, toutes les émissions de l'antenne vont embrasser à leur manière l'œuvre de l'écrivain. Et vous imaginez bien que nous allons nous intéresser à la manière dont il a intégrer les technologies de l'époque à son récit, mais également à son rapport personnel à la modernité. Et vous allez voir que du côté de la tech, il y a beaucoup de choses à dire et à découvrir. Et pour partir à la recherche des nouvelles technologies, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Jérôme Bastianelli. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général délégué du musée du Quai Branly à Paris, essayiste et président de la Société des Amis de Marcel Proust. À vos côtés, Cécile Leblanc, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Sorbonne Nouvelle et auteur de Proust, écrivain de la musique, l'allégresse du compositeur. Vous êtes spécialiste des rapports entre musique et littérature à la fin du 19e siècle. Nous aurons également en ligne tout à l'heure Nicolas Ragoneau, éditeur et écrivain, auteur du Proustographe, une sorte de big data proustien. À la fin de ce meilleur des mondes, nous recevrons Marie Turcan, rédactrice en chef du média Numérama, qui délivrera sa chronique de la semaine. Nous sommes donc ensemble et en direct jusqu'à 22h. Et nous ouvrons avec les propos d'un certain Hiroya Sakamoto, professeur de littérature française à l'université Rikkyo à Tokyo, un homme qui a consacré sa thèse aux inventions techniques dans l'œuvre de Marcel Proust. Il était donc fait pour ce meilleur des mondes.
On a encore tendance à le considérer comme un écrivain passéiste, nostalgique de l'enfance dans un village peu industrialisé, qui est décrit dans le premier volume du côté de chez Swann. Mais il suffit de parcourir les volumes suivants pour se rendre compte que Proust accorde une place non négligeable aux nouveautés techniques de son temps. On peut évoquer la bicyclette d'Albertine qui apparaît sur la digue à Balbec, symbole en quelque sorte de son ubiquité, puis le téléphone qui transmet la voix fantomatique de la grand-mère. Ensuite, il y a la voiture automobile qui modifie la figure du pays en succédant au chemin de fer. Ce changement de conscience géographique renvoie à la structure même du roman. Enfin, l'avion, admiré près de la côte normande et à Versailles, redouté à Paris pendant la guerre. Toutes ces apparitions peuvent donner envie de prendre le contre-pied du cliché passéiste et de voir dans ces épisodes un aspect futuriste de l'œuvre de Proust.
456 pages sur Proust et les nouvelles technologies, c'est toute la thèse d'Hiroya Sakamoto. Il est actuellement 4h03 du matin à Tokyo et donc grâce au téléphone, nous avons pu prendre de ses nouvelles et entendre la voix de ce japonais passionné par notre sujet du soir. Le téléphone est d'ailleurs une invention de l'époque qui va accompagner tous les tomes de la recherche. On évoquera aussi l'aéroplane ou encore le mystérieux théâtrophone. Alors Jérôme Bastianelli, où se situe Proust, ni anti-moderne, ni passé ni futuriste, comment on arrive à le positionner, à le placer?
Je crois que tout d'abord, Proust est un homme de son temps et un homme curieux. Je crois que son goût pour les technologies, son goût pour la modernité, c'est à mettre en général dans sa curiosité intellectuelle pour tous les rapports, tout ce qui existe autour de lui. Donc c'est soit l'analyse des rapports sociaux, l'analyse de la manière dont les gens interagissent entre eux, l'analyse des mystères de l'amour, tout ça c'est, on le retrouve dans la recherche du temps perdu, puis l'analyse des mystères des progrès scientifiques, parce que c'est des choses qu'il qu'il va utiliser sans forcément les comprendre, et ça va lui donner une source de métaphore supplémentaire pour comparer l'électricité à l'amour, parce que c'est par exemple deux forces qui émeuvent sans qu'on les comprenne ni l'une ni l'autre.
Oui, on cherche à chaque fois l'étincelle aussi, hein, voilà, que ce soit l'électricité ou l'amour. Cécile Leblanc, quel est votre avis là-dessus? Comment placer Proust par rapport justement... Déjà, j'imagine qu'il faut sortir un peu du cliché, comme nous le disait Hiroya Sakamoto, d'un homme qui est tout le temps dans la nostalgie, qui n'est que dans la nostalgie.
Ah oui, non, je pense que Proust, c'est le contraire de la nostalgie. Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue japonais. Et les cahiers de brouillon prouvent à l'envi que Proust a été à l'affût de toutes les nouvelles technologies pour écrire son roman. Les deux, vous parliez à l'instant du théâtrophone, il y a aussi le pianola. Bon, le théâtrophone a été inventé en 1881. Et dès que Proust peut, il s'abonne. Et il en tire tous les avantages qu'on a aujourd'hui, nous, avec la radio ou avec les disques, et il a véritablement travaillé ses œuvres travaillé les œuvres qu'il écoutait pour son roman grâce à ces nouvelles technologies.
Alors vous avez évoqué le mot de théâtrophone. Je pense qu'il y a quand même encore des auditeurs et des auditrices qui ne connaissent pas tout à fait ce qu'est le théâtrophone, il faut bien le dire, ça a disparu. On va écouter justement un extrait de l'époque, un extrait du théâtrophone.
Marcel Proust souscrit un abonnement au théâtrophone pour entendre les opéras de Wagner. C'était un fervent wagnérien. Mais il est vrai aussi que c'est grâce au théâtrophone qu'il va découvrir Péléas et Mélisande, par exemple, de Claude Debussy. Et d'ailleurs, il raconte qu'il est bercé par une rumeur un peu amorphe et que finalement il s'aperçoit que c'est l'entracte. Et je trouve que cette phrase est très révélatrice de ce que proposait aussi le théâtrophone, avec ses défauts, ses grésillements, ses craquements. Il ouvrait un espace nouveau, un espace imaginaire. Au fond, le théâtrophone était une bête un peu fantastique, comme l'était la pieuvre dans les romans de Jules Verne. Et cette pieuvre un peu fantastique, qui permettait de son lit d'écouter le théâtrophone, eh ben, elle se développait grâce à ses tentacules.
Extrait d'un documentaire diffusé sur Arte qui s'appelle Streaming au 19e siècle. Alors vous voyez, on est vraiment dans le meilleur des mondes proustiens avec ce titre-là. On entendait Séverine Mabi qui est une historienne du théâtre. Alors pour encore vraiment bien comprendre, Cécile Leblanc, le théâtrophone, ça permettait quoi finalement? D'écouter une pièce d'opéra à distance tranquillement depuis chez soi?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un abonnement qui est relié au téléphone et des micros ont été posés pour commencer au Palais Garnier, puis petit à petit à la Comédie Française, dans les cabarets, dans toutes les principales salles de concert. Et Proust suit au fur et à mesure les nouveaux abonnements. Il écrit à une de ses amies « Attention, maintenant, ils ont même les concerts touches ». C'est-à-dire qu'il peut écouter de la musique de chambre. Donc, on reste au pied de son lit. Proust dira d'ailleurs qu'il a son théâtrophone juste à côté de son lit, ce qui lui permet d'être visité par la symphonie pastorale jusque dans ses draps. Et donc, c'est un moyen domestique d'écouter quand on ne veut pas aller au concert ou quand on ne peut pas. Et surtout, je pense que ça a permis à Proust de changer son oreille, c'est-à-dire ne plus avoir l'oreille classique qu'il avait au concert, d'entendre la musique éventuellement avec des bruits, mais d'entendre autrement, en particulier donc un son complètement dématérialisé et qui, comme le disait en effet le documentaire, au théâtrophone on entend les bruits de la salle, on disait même que quelquefois on entendait le souffleur, et que finalement ça lui a donné l'idée de sons extrêmement modernes. En fait c'est du bruitisme, c'est quasiment de la musique concrète. Et je pense qu'il a vraiment... un peu inventé pour Vinteuil cette musique concrète à partir
Vinteuil, un de ses personnages, effectivement un compositeur, un musicien qui est effectivement dans la recherche. C'est intéressant ce que vous nous dites. Juste parenthèse, à Paris, ils étaient combien les personnes à pouvoir utiliser le théâtrophone? C'était quand même réservé, j'imagine, à une élite. J'imagine que l'abonnement n'était pas donné, non?
Alors l'abonnement n'est pas donné en effet. Et dans une lettre de Proust, parce que justement, il y a pour le piano là, pardon, il y avait un catalogue et il parle de 15 000 abonnés. Bon, c'est sans doute un peu plus pour le théâtre. Ça, j'avoue que je ne connais pas exactement les chiffres.
Mais on comprend bien que c'était quand même effectivement une minorité. C'est intéressant de savoir que justement, il a aiguisé son oreille à la fois sur la pièce en elle-même et les à côté et les coulisses. Vous parlez du bruitisme. Et là, effectivement, on est complètement dans la modernité. Alors là, c'était le théâtrophone. Hein, c'est quelque chose d'assez particulier que sans doute quelques personnes découvrent en ce moment même. Il y a surtout avant quand même le téléphone. Alors le téléphone, on est d'accord que ça accompagne complètement l'œuvre de Proust et tous les tomes de la recherche, Jérôme Bastianelli. Est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être le premier écrivain français à faire du téléphone un objet récurrent et presque un personnage de son œuvre?
Oui, le téléphone tient un rôle important, et à partir de son expérience personnelle d'ailleurs, une expérience qu'il va connaître à Fontainebleau en 1896. Il est parti à Fontainebleau avec Léon Daudet, en espérant écrire un roman et voir la forêt automnale. Et donc il est loin de sa mère, et il a envie de téléphoner à sa mère. C'est compliqué parce que le téléphone, les gens n'avaient pas le téléphone chez eux, donc fallait aller soit à la poste, soit dans des boutiques qui avaient le téléphone, donc fallait en quelque sorte prendre rendez-vous, et ça marche assez mal. Et puis tout d'un coup, enfin, il réussit à entendre sa mère. Et évidemment, le son de la voix, enfin le téléphone n'était pas, la technologie était encore un peu balbutiante, donc la voix de sa mère lui apparaît avec beaucoup de crachotements et un peu comme c'est très lointaine et
un peu comme un fantôme,
et donc il réalise que c'est une sorte de présence absente, quoi, c'est presque une voix qui vient d'outre-tombe, et ça va beaucoup le marquer. Il va en parler, il va en écrire cette scène tout de suite, il va envoyer un petit texte à sa mère qui voulait dire mais enfin c'est très triste comme histoire. Enfin, elle va trouver que c'était pas. Elle va comparer, je crois, le ton triste de cette histoire au récit d'un bagnard qui arriverait au bagne. Et il va réutiliser cet épisode à la fois dans Jean Santeuil, qui est un des romans qu'il écrit, qui ne va pas achever, qu'il écrit à ce moment-là, avec un épisode qui se passe à Begmeil, et bien sûr dans Le Côté de Guermantes, au moment où il est dans la garnison de Doncières, et où enfin il réussit à parler non pas à sa mère, mais à sa grand-mère. Donc c'est quelque chose qu'il a beaucoup marqué, ce mystère du téléphone, qui était en fait une manière de rapprocher les gens, de vaincre la distance physique, et en même temps de pas complètement la vaincre, puisque les gens n'étaient pas vraiment là non plus, quoi. C'était une fois cette impression un peu d'outre-tombe.
Oui, c'est ça, et puis c'est tout le paradoxe qu'on a actuellement sur les technologies, qui à la fois sont censées nous rapprocher dans une hyperconnexion, mais qui peuvent aussi à leur manière nous éloigner les uns des autres. Et on voit tout à fait le regard un peu ambigu que Proust va avoir avec le téléphone, un regard qui va d'ailleurs évoluer. Juste pour donner quelques petites informations, à ce moment-là, en 1900, par exemple, on compte un peu plus de 2400 abonnés seulement. 2400, c'est pas grand-chose. Il faut dire aussi qu'à ce moment-là, le téléphone était très rare. Alors, il en fait donc un usage sensible, séducteur, mondain de ce téléphone. Cécile Leblanc, j'imagine que là encore, on est dans le son, on est dans la sonorité, on est dans la musique presque, hein.
Oui, absolument. Surtout que Proust a toujours une grande réticence vis-à-vis des interprètes. C'est-à-dire que pour lui, l'image et l'image de l'interprète gâche d'une certaine façon la musique, parce qu'on est distrait par l'image, on regarde les mimiques, et il le dira d'ailleurs à propos de la grand-mère dans l'épisode des téléphones, quand j'ai plus la partition de son visage, c'est-à-dire que le visage est comme une partition sur laquelle on lit des signes, eh bien on entend autrement. Et finalement, ce qu'il aimera dans le théâtrophone, le pianola, ou les concerts qu'il se fait pour lui-même, hein, quand il invite le Quatuor Poulet chez lui, c'est justement qu'il se met dans le noir et qu'il écoute à l'aveugle. Et finalement, ça, c'est quand il a réussi à réaliser cette écoute à l'aveugle, il n'entend plus que le son ou le timbre. Et là, il peut vraiment travailler son texte.
Petite précision aussi sur le pianola, vous l'avez cité plusieurs fois. C'était quoi exactement un pianola? C'était un piano mécanique? Comment on peut le définir?
Alors, c'est un instrument. Il y a eu plusieurs types de pianola, mais celui qu'achète Proust, c'est un instrument qu'on peut adapter sur des pianos ou des pianos à queue. Et ça a un intérêt technologique fondamental pour Proust, c'est qu'il peut louer des rouleaux. Un petit peu comme il y a 20 ans, on louait des vidéocassettes. Et on les écoute et on les rend. Il y a plusieurs fois, même dans le roman, hein, ils disent qu'il rend les rouleaux à Françoise, la servante, pour qu'elle aille les échanger. Et donc, à ce moment-là, il a tout un répertoire. On a encore aujourd'hui le catalogue de la compagnie Aeolian qui a inventé le pianola. Pianola, c'est une marque, hein, c'est pas un nom.
Et donc, c'est une marque qui est devenue ensuite un nom générique. Ouais.
Voilà, mais c'est une marque américaine d'une firme qui était basée à Brooklyn et qui a inventé donc ce piano à rouleaux. Et ils avaient tout un catalogue où on pouvait louer tous les rouleaux. Et donc, il a épuisé d'une certaine façon le catalogue pour écouter et réécouter et travailler ces partitions.
Alors justement, on a un petit extrait du pianola. Ça va être comme un mini entracte pour laisser justement le temps à Jérôme Bastianelli de se préparer à un moment de lecture. Donc voilà, un petit peu de pianola, on vous met en situation et puis ensuite on va ouvrir le rideau. Nous y sommes. Somme, Jérôme Bastianelli, est-ce que vous êtes prêt pour nous faire justement une petite lecture toujours sur,
essayer, oui.
sur le téléphone avec les demoiselles du téléphone, hein, ça sera une petite lecture que vous allez nous proposer, accompagnée en musique par Chabrier sur l'ouverture de Gwendoline. Hein. Cécile Leblanc, qu'est-ce que ça représente pour lui justement
Alors. Justement, Gwendoline, c'est l'un des rouleaux qu'il loue pour Pianola. Et surtout, il écrit à ses amis que Gwendoline va être donnée à tel moment au théâtrophone. Il écrit à Madame Strauss, qui était la veuve de Georges Bizet, une de ses grandes amies. Et il lui écrit, mais surtout, abonnez-vous au théâtrophone pour écouter la charmante Gwendoline.
Et voilà, les demoiselles du téléphone sous Gwendoline par Jérôme Bastianelli. C'est parti.
Nous n'avons... pour que ce miracle s'accomplisse, qu'à approcher nos lèvres de la planchette magique et à appeler, quelquefois un peu trop longtemps, je le veux bien, les vierges vigilantes dont nous entendons chaque jour la voix sans jamais connaître le visage et qui sont nos anges gardiens dans les ténèbres vertigineuses dont elles surveillent jalousement les portes, les toutes puissantes par qui les absents surgissent à notre côté, sans qu'il soit permis de les apercevoir. Les Danaïdes de l'invisible, qui sans cesse vident, remplissent, se transmettent les urnes des sons. Les ironiques furies qui, au moment que nous murmurions une confidence à une amie, avec l'espoir que personne ne nous entendait, nous crient cruellement « J'écoute !» Les servantes, toujours irritées du mystère, les ombrageuses prêtresses de l'invisible, les demoiselles du téléphone. Et aussitôt que notre appel a retenti, dans la nuit pleine d'apparitions sur laquelle nos oreilles s'ouvrent seules, un bruit léger, un bruit abstrait, celui de la distance supprimée, et la voix de l'être cher s'adresse à nous.
Merci beaucoup pour cette lecture de Proust dans le texte qui raconte bien justement tout le rapport qu'on pouvait avoir avec le téléphone. Et c'est vrai que c'est toujours quand même intéressant d'essayer de se replacer dans l'époque, d'imaginer quand même cette technologie, cette innovation. C'est vrai que c'était dingue quand même d'avoir la voix de quelqu'un sans sa présence physique, de pouvoir parler, communiquer à des plusieurs centaines de kilomètres. C'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et pour faire justement écho un petit peu avec notre actualité récente, il le dit dans un article du Figaro de 1907, il fait allusion au temps d'épidémie de l'époque. Il disait que le téléphone était aussi bien pratique pour éviter toute forme de contagion. Et là, finalement, on revient totalement sur la distanciation sociale et physique. Alors, il était très visionnaire. Est-ce que vous le pensez justement, Jérôme Bastianelli, qu'il était visionnaire, Marcel?
Ah ben, je pense parce que, par exemple, juste après cet extrait là que nous avons lu, il explique qu'en fait, à un moment, il veut téléphoner puis il trouve que ça va pas assez vite et il explique qu'en fait, les mystères des choses qui lui avait paru complètement mystérieuse il y a quelques années plus tôt, ils sont devenus tellement banals qu'ils s'impatientent très facilement face au retard que peuvent prendre ces fameuses vierges vigilantes, ces fameuses demoiselles du téléphone à lui passer la communication. Et je trouve que c'est un peu comme aujourd'hui où on se dit dès qu'on a une connexion internet qui marche moins bien, on oublie qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas de fibre, ou 15 ans, ou qu'il y a 20 ans, c'était les modems 56K. Et il décrit tout à fait cette imprégnation de la technologie qui va très rapidement modifier nos habitudes à tel point qu'on a l'impression qu'on a toujours vécu avec.
Voilà, effectivement, il a déjà perçu notre manque de patience face aux technologies, alors qu'il faut un peu de patience pour lire pourtant du Marcel Proust, parce que lui, justement, prend son temps pour décrire les différents sentiments. Et puis, on peut lire aussi, je crois que c'est le narrateur qui dira dans La Voix d'Albertine, qu'il y a une sorte de photo-téléphone, et que dans l'avenir, justement, le son pourrait être accompagné de l'image. Là, c'est visionnaire, pour le coup.
Oui, en fait, il dit que la voix d'Albertine lui rappelle certains traits de son caractère, de même que le nez, la forme de son nez lui rappelle aussi d'autres traits de caractère. Et du coup, il fait une espèce de fusion entre le son de sa voix et la forme de son visage. Et c'est comme ça qu'il imagine qu'un jour, on aurait les deux à la fois, le photo-téléphone. Et d'ailleurs, dans l'extrait qu'on a lu, il parle aussi de la planchette magique. La planchette magique, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, un iPad ou un iPhone, c'est une sorte de planchette magique. Donc, il avait en quelque sorte imaginé ça aussi.
Voilà. Il était déjà sur le FaceTime qui allait arriver. Puis justement, pour faire encore d'autres allusions qu'on verra au cours de cette émission, hein, j'ai parlé de l'épidémie et de comprendre comment les outils technologiques pouvaient éviter une forme de contagion. Mais on pourra aussi parler de son rôle de grand confiné, hein, finalement, vivant dans sa chambre reclus en essayant d'inventer et de pallier justement à toute cette distance. Mais je vous propose maintenant une petite pause musicale, une vraie, alors forcément plus contemporaine, encore pour une histoire de commémoration, puisqu'il puisqu'il s'agit aujourd'hui du centenaire de la naissance de Georges Brassens. Quel est le point commun entre Georges Brassens et Marcel Proust? Allez, tiens, une certaine mention de Sodome et Gomorre. Vous êtes sur France Culture, dans le meilleur des mondes.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait. 100 ans après, coquin de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Ah oui.
Et voilà, Georges Brassens, les copains d'abord. On a entendu dans les paroles Sodome et Gomorre, qui est le quatrième volet aussi de la recherche du temps perdu. Et puis c'était effectivement une manière de saluer le centenaire donc de sa naissance, à un an du centenaire de la mort de Marcel Proust. Je le rappelle, on participe à cette opération assez événementielle avec France Culture, le podcast où chacune de nos émissions vont à leur manière traiter l'œuvre de Marcel Proust. Mais il est l'heure, comme chaque vendredi soir, du journal, avant de reprendre notre discussion autour de Marcel Proust, enfin le journal Les Nouvelles du Meilleur des Mondes, c'est-à-dire le petit tour de l'actualité tech de la semaine. Mais ce soir, ce tour prendra place en 1900. « L'exposition universelle à Paris, à la Concorde, au Champ de Mars, les visiteurs découvrent des idées étincelantes et innovantes au cœur de la ville Lumière. Il faut bien avouer que nous sommes nombreux à être fascinés par la rue de l'avenir. La rue de l'avenir soit un trottoir roulant, imaginez, vos deux pieds sont immobiles sur le macadam. Et pourtant, une plateforme mouvante vous transporte à près de 8 km de l'heure. C'est magique et cela pourrait révolutionner le transport urbain en faisant avancer 70 000 personnes par jour. Bien plus que les passagers du tramway. Encore faut-il rester bien accroché, que les dames ne se prennent pas leurs talons et que les hommes se stabilisent dans les virages. Il n'y a pas à dire, c'est une invention renversante. On passe maintenant de la terre au ciel avec le premier vol d'un Zeppelin. L'objet volant tire son nom de son créateur allemand, le comte Ferdinand von Zeppelin. Il s'agit d'un ballon dirigeable à coque rigide qui contient de l'hydrogène, un gaz plus léger que l'air. Le 2 juillet, le comte n'écoute que son courage pour prendre place à bord en compagnie de 4 autres personnes dans l'une des deux cabines situées à l'avant et l'arrière du gonflable. S'ensuit un vol de 18 minutes au-dessus du lac de Constance. Seulement 18 minutes car le Zeppelin doit atterrir en urgence après un problème de structure, mais il est certain que nous pourrons compter avec le comte Zeppelin sur un objet d'avenir. Enfin, découvrez la toute nouvelle jumelle stéréoscopique pour immortaliser vos plus beaux souvenirs. Elle est l'œuvre du grand ingénieur français en optique Henri Bellieni. Il vient d'ailleurs de recevoir la médaille d'or à l'exposition universelle. Deux chambres photographiques, deux capteurs, deux objectifs côte-côte dans un même boîtier pour réaliser deux photographies jumelles en vue de la restitution du relief, soit de la troisième dimension. Plus légère et plus facile d'accès, on peut miser sur Bellieni pour démocratiser la photographie et en prendre plein les mirettes. Alors, Jérôme Bastianelli, là, il a été beaucoup question dans les actualités de 1900 de transport, de mobilité. Le transport et les véhicules, les objets, les différents objets du transport sont aussi évidemment présents dans la recherche, notamment la bicyclette d'Albertine. Si je reprends encore les mots de Hiroya Sakamoto, il en fait, cette bicyclette, un symbole de la modernité, mais un symbole de féminité à travers le personnage d'Albertine. Elle serait pour lui le symbole de l'altérité féminine.
C'est le symbole aussi de la modernité d'Albertine, c'est-à-dire que c'était au début, enfin à l'époque où Proust se trouve, enfin où le narrateur se trouve à Balbec, donc à Cabourg, et voit c'est ce groupe de jeunes filles faire du vélo. C'est une preuve de liberté, pour insister sur le côté un peu dévergondé de ces jeunes filles qui n'hésitent pas à utiliser justement ces objets modernes qui n'étaient pas forcément encore dans l'usage de toutes les filles, les jeunes filles de bonne famille. Et puis ça donne ce côté un symbole de la liberté, quoi.
Comme tous les moyens de transport. C'est ça.
D'émancipation, la liberté, avec la bicyclette, vous allez plus facilement là où vous voulez aller que si vous êtes à pied. Et encore plus, bien sûr, quand il va parler de l'automobile. Donc, je pense que c'est aussi le symbole de la liberté d'esprit de ces jeunes filles.
Alors, je pédale du côté de jusqu'à Cécile Leblanc, parce qu'on va revenir un petit peu, je crois, au pianola, parce que Albertine, elle joue aussi du pianola, et pour le narrateur, il fait un rapprochement entre pianola et bicyclette.
Oui, parce que justement, quand Albertine lui joue du pianola dans sa chambre, cette chambre qu'il a équipée, donc il le dit lui-même, avec les moyens les plus modernes, à savoir donc le théatrophone et le pianola, il explique que ce qui est très bien dans Albertine devant le pianola, c'est qu'elle a des jambes musclées par la bicyclette et qu'elle peut donc pédaler de façon plus véloce sur le pianola. Et donc, elle manie tous les instruments modernes, cette Albertine. Elle était tout à fait fascinante, parce qu'en effet, elle est passée de la bicyclette au pianola. Et elle est donc en phase avec les objets, techniques, des techniques de pointe.
C'est marrant parce que plus on avance dans cette émission, plus on entre dans l'intimité de la chambre de Marcel Proust cette fois-ci. On se rend compte que c'est une chambre high-tech en fait. Hein. Il y a des micros, il y a un théâtrophone, il y a un piano là.
Absolument.
S'il avait eu des caméras, je pense qu'il l'aurait installé partout. Il aurait été en visio avec tout le monde. Donc on voit à la fois, même finalement, presque, j'y pense maintenant, une idée un peu d'avatar qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est à la fois tous un peu dans un espace physique et puis on a tous un profil sur Facebook, sur Instagram qui est une sorte d'altérité.
On pourrait même dire que le narrateur de La Recherche Temps Perdu est une sorte d'avatar de Marcel Proust.
oui, voilà, qui évolue non pas dans un cyberespace ou un cyberespace, mais dans une œuvre tout aussi multiple, complexe. C'est une sorte effectivement de comédie humaine, de métaverse peut-être. pour reprendre les mots de Mark Zuckerberg. Et on aura justement l'occasion de questionner encore cette modernité tout à l'heure avec la chronique de Marie Turcan. Mais si on revient sur les routes, on a parlé de bicyclette et puis évidemment la voiture.
Ah oui, la voiture, il va beaucoup la pratiquer. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il va rencontrer Alfred Agostinelli, qui va avoir une place importante dans sa vie, puisque ça sera un des conducteurs des taxis qu'il va utiliser quand il sera à Cabourg pour aller visiter la Normandie. Et il y a des choses très intéressantes dans un texte qu'il publie en 1907, qui s'appelle Impression de route en automobile. Voilà, c'est comme ça le titre qui paraît dans le Figaro. Et donc, il a envie de connaître les cathédrales qui sont autour de Cabourg, et il va avec son chauffeur devant les cathédrales. Il compare d'ailleurs, il y a une autre métaphore musicale, Cécile parlait de la métaphore entre la bicyclette et le piano, là il y a une autre métaphore parce qu'il va comparer le chauffeur de la voiture à un organisme qui tire tout un tas de tuyaux et de tiges pour conduire, pour changer les vitesses, pour freiner, pour allumer les phares. Et donc ils arrivent à un moment devant tous les deux devant une cathédrale, il fait nuit et Alfred Agostinelli va projeter la lumière des phares sur la façade de la cathédrale et c'est une sorte là aussi d'anticipation de ce qu'on fait aujourd'hui de toutes les grandes villes qui ont des cathédrales font avec Chartres en lumière, Amiens en lumière, Bourges en lumière, que sais-je, Reims en lumière. Et bien voilà, c'est déjà imaginé dans ce texte de 1907 où Proust va trouver phénoménal de pouvoir observer la façade, les saints, les sculptures de la cathédrale avec la lumière des phares. Et puis enfin sur ce texte qui est vraiment très beau, il y a une phrase qui est absolument prémonitoire parce que donc il compare le volant du chauffeur à un des symboles justement que les saints portent sur les cathédrales. Vous savez, les saints, ils ont soit des lyres, soit des corps de chasse, nous dit Proust. Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de saints qui ont des corps de chasse sur les façades des cathédrales. Enfin, ils ont tous un attribut qui permet de les reconnaître. Et donc, il espère que le volant d'Alfred Agostinelli est plutôt l'attribut, le symbole de son talent, plutôt que le signe de ses tourments en imaginant qu'il pourrait un jour avoir un accident de voiture. Et on sait que ce n'est pas un accident de voiture qu'il va avoir quelques années plus tard, 7 ans plus tard exactement, mais un accident d'avion. Donc, il y a un côté très prémonitoire dans ce texte qui est vraiment très très beau.
Et puis là, vous passez justement de la voiture à l'avion, l'avion aussi, hein, qui est présent et à la fois dans l'œuvre et puis dans la vie de Marcel Proust. Et puis pour revenir au chauffeur, je crois qu'il n'y avait pas à un moment donné, il n'y avait pas fait une promesse peut-être de lui offrir un avion.
Oui, en fait, Alfred Agostinelli et Proust, Alfred Agostinelli va s'installer chez Proust en 1913 et puis ils vont tous les deux aller visiter les aérodromes de la région parisienne, notamment Buc. Alfred Agostinelli est très motivé, très impressionné par l'aviation. Il a envie d'apprendre à piloter. Il va ensuite se séparer de Proust à la fin de l'année 1913 et prendre des cours de pilotage à Nice. Et c'est ce qui conduira à son accident. Mais Proust avait envisagé, en effet, de lui acheter à la fois une voiture et un avion.
Voilà, c'était les promesses de cadeaux. On va passer de l'avion justement à l'aéroplane avec un deuxième moment de lecture, mais qui cette fois-ci va être interprété par Cécile Leblanc. Vous voyez, je vous mets bien en contribution hein, dans cette émission, mais je sais que vous le faites avec plaisir parce que vous avez l'amour de Proust et ça se ressent justement dans votre lecture. Alors, on a choisi Wagner pour vous soutenir, Parsifal. J'imagine que ça vous va bien, Cécile Leblanc, ça vous va comme...
Oui, alors à la fois parce que Parsifal, on pense qu'il l'a entendu au théâtrophone après avoir écouté beaucoup de Wagner à l'opéra et dans les concerts, et qu'en plus il compare assez souvent la technique. Enfin, il aura cette phrase assez méchante en disant que Wagner finalement c'est un bon technicien, mais qui n'a pas été jusqu'au bout parce qu'on entend toujours, comme pour dans les avions, le bruit du moteur. Et donc c'est pour ça.
Excusez-moi, mais il y a une phrase absolument géniale aussi dans Le Temps retrouvé où il compare les avions allemands qui viennent bombarder Paris,
oui,
au bruit, enfin. Leur bruit à la chevauchée des Valkyries dans les Valkyries, ça c'est une idée qui va être reprise par Francis Ford Coppola dans Apocalypse Now avec les hélicoptères qui arrivent sur la musique de la chevauchée des Valkyries. C'est là aussi, c'est un côté très, très anticipateur dans l'œuvre de Proust.
Voilà, vous écoutez Jérôme Bastianelli, on voit qu'il y a du Proust partout.
Tout à fait.
D'Apocalypse Now jusqu'au streaming en passant par l'iPad. Mais tout de suite, c'est Cécile Leblanc avec justement la lecture d'un extrait de Sodome et Gomorre en nous parlant d'un aéroplane qui vole comme ça au-dessus de nous.
Je fus aussi ému que pouvait l'être un Grec qui voyait pour la première fois un demi-dieu. Je pleurais aussi, car j'étais prêt à pleurer du moment que j'avais reconnu que le bruit venait d'au-dessus de ma tête. Les aéroplanes étaient encore assez rares à cette époque. À la pensée que ce que j'allais voir pour la première fois, c'était un aéroplane. Alors, comme quand on sent venir dans un journal une parole émouvante, je n'attendais que d'avoir aperçu l'avion pour fondre en larmes. Cependant, l'aviateur sembla hésiter sur sa voie. Je sentais ouverte devant lui, devant moi, si l'habitude ne m'avait pas fait prisonnier, toutes les routes de l'espace, de la vie. Il poussa plus loin, plana quelques instants au-dessus de la mer, puis prenant brusquement son parti, semblant céder à quelque attraction inverse de celle de la pesanteur, comme retournant dans sa patrie, d'un léger mouvement de ses ailes d'or, il piqua droit vers le ciel.
Le meilleur des mondes, 21h34 sur France Culture. On continue justement à parcourir l'œuvre de Marcel Proust avec notre prisme sur les nouvelles technologies. Ce qui est intéressant, je ne sais même pas si c'est un paradoxe, Jérôme Bastianelli, c'est que on a à la fois donc un Marcel Proust qui est donc confiné dans sa chambre, on a compris sa chambre high-tech où il essaye d'avoir un peu comme ça les mouvements de la foule et du monde à travers lui. On a un Proust qui est donc passionné par les outils de transport, par les véhicules, par l'aviation. Donc c'est toujours ce côté un peu intérieur, extérieur, immobilité, sensorielle et puis en même temps mouvement.
Je crois qu'il était fasciné aussi par la modernité des nouveaux modes de transport parce que ça accentuait complètement la mobilité, ça permettait justement des rapprochements beaucoup plus rapides, des rapprochements physiques, ça, beaucoup plus rapides qu'à l'époque de sa jeunesse. Et je pense qu'il y a une comparaison à faire avec toute son analyse sur la mémoire qui tout d'un coup, là aussi, de manière très soudaine, permet des rapprochements entre deux points géographiques, mais entre deux points temporels. Tout d'un coup, on va se mettre à se souvenir d'un épisode de notre vie. Et je pense que ça l'a beaucoup marqué. Et puis il y a aussi effectivement dans le confinement la technologie qui l'a aidé. Alors il a été confiné pour tout un tas de raisons, parce qu'il était malade, parce qu'il savait qu'il avait une œuvre à porter et qu'il fallait qu'il la finisse. Donc il fallait travailler. Donc c'était aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Et puis il était confiné parce qu'il croyait à la force de l'imagination et que il réussissait à recréer en lui les images qu'il ne pouvait pas voir ou les souvenirs qu'il gardait des lieux qu'il avait visités. Et ça explique peut-être pourquoi il n'a pas été absolument, parmi toutes les technologies, absolument convaincu par le cinéma. Il aurait pu aller au cinéma, il y est en fait quasiment jamais allé. Il y allait une fois quand il était à Cabourg en 1908 voir un documentaire sur Saint-Omer, sur la ville de Saint-Omer. Mais il n'en parle pas beaucoup et je pense que ça ne rentrait pas complètement dans son esthétique parce que, comme le disait tout à l'heure aussi Cécile, le cinéma projette des images qu'on n'a pas besoin d'imaginer soi-même puisqu'on les a sous les yeux. Et c'était un peu l'inverse de ce qu'il attendait de ses lecteurs.
Oui, c'est ça. C'est que peut-être qu'il considérait le cinéma comme étant juste un ersatz, une représentation de la simple réalité. Il n'avait peut-être pas encore perçu le pouvoir de l'imagination qu'il allait avoir au cinéma.
Tout à fait. Mais je pense que ce n'était pas encore quelque chose qui était rentré dans son imaginaire.
Alors pour rebondir justement avec le confinement, je vous propose de rebondir avec Jean Cocteau.
Alors, j'ai connu Marcel Proust lorsqu'il était un inconnu. Et nous le traitions toujours comme s'il était célèbre. C'était une habitude prise. Lucien Daudet m'avait mené dans cette chambre du boulevard Haussmann où il vivait, couché dans un nuage de poudre anti-asthmatique. On n'ouvrait jamais les fenêtres. La poussière recouvrait les meubles comme une fourrure de petit gris. Proust écrivait dans son lit, ganté, environné de plaques de liège. Il était dans une guérite de plaques de liège. Sa barbe et sa frange de mèche noire le faisait ressembler au Carnot mort du musée Grévin, à quelque Capitaine Nemo de Jules Verne.
Cécile Leblanc, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors, ça m'inspire, comment dirais-je, quelque chose d'un peu désagréable finalement vis-à-vis de Cocteau qui bâtit un mythe.
Fallait bien qu'on soit un petit peu justement avec un peu de nuance là quand même, tout de même. On était là dans un petit bain moussant tous ensemble, il fallait que ça éclabousse.
Et donc non, Cocteau m'énerve un peu parce que je trouve qu'il bâtit un mythe, enfin l'image de Proust dont il pense que le public a envie de voir ce Proust dans ses fumigations, dans sa chambre de liège. Et ce qui a fait finalement, je trouve, pas mal de mal à Marcel Proust en faisant cette espèce d'écrivain malade dans son lit, alors que c'était tout le contraire. C'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime le mouvement, qui aime les transports, qui aime les nouvelles technologies. Et donc, ce que dit pas Cocteau, c'est justement tout ça, ce qu'était Proust qui s'intéresse à tout, qui s'intéresse en particulier énormément à la modernité de son temps, à la modernité de l'art, mais surtout à la modernité de la musique, et finalement qui a des positions bien plus modernes que celles de Cocteau. Pendant la guerre, Cocteau est quand quand même quelqu'un qui se met en retrait, qui dit « ah oui, on peut peut-être pas vraiment écouter de la musique allemande ». Et Proust se moque de ça. Il va véritablement contre Cocteau. Donc je pense que Cocteau, là, comment dirais-je, est un peu démagogique.
Voilà, c'est dit, ce sont les propos de Cécile Leblanc. Bon, en tout cas, depuis le début de cette émission, on a bien compris qu'on casse quelques clichés concernant Marcel Proust. Hein. On voit bien qu'il est tout le temps en mouvement, dans son temps, dans son époque, en bicyclette, en avion ou encore en voiture, mais surtout de par son imagination. Je vous propose maintenant d'accueillir un autre invité par téléphone. Vous savez, la téléphone, c'est cette sorte d'innovation incroyable où on peut entendre la voix de quelqu'un sans forcément qu'il soit présent à nos côtés. C'est le cas de Nicolas Ragoneau. Vous nous entendez, Nicolas ?
Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes auteur d'un ouvrage qui s'appelle Le Proustographe. Hein, c'est bien ça, Nicolas. Et vous avez eu l'idée de croiser à la fois la science de la data, donc c'est-à-dire que l'analyse des données, et l'œuvre de Marcel Proust. Comment vous est venue cette idée ?
Alors d'abord, je voudrais signaler que le Proustographe, c'est un hommage à la fois à Brassens et puis aussi à Charles Cros, qui était l'inventeur du phonographe.
Donc les copains d'abord vous ont fait plaisir, j'imagine, Nicolas Ragoneau, qu'on a diffusé.
Ça ne pouvait pas mieux tomber. Ce n'est pas une idée que j'ai eue, il faut que je sois tout à fait honnête, mais c'est l'idée de la directrice éditoriale des éditions de Noël, qui en fait a lu le manuscrit d'un autre livre que j'ai signé qui s'appelle Proustonomics, 100 ans avec Marcel Proust, dans lequel il y a énormément de données. Et il y a notamment une documentation des ventes de la recherche sur 100 ans, avec des graphes, et beaucoup de chiffres, et puis aussi un long chapitre consacré aux prénoms proustiens. Et dans ce chapitre, je me sers notamment de données de l'INSEE pour documenter la façon dont le récit de Proust a pu rejaillir dans le réel par le fait que on donne à des enfants des prénoms issus de la recherche ou tout simplement des prénoms de l'environnement de Marcel Proust. Je pense à Céleste Albaret, mais je pense évidemment aussi au prénom Marcel. Et donc, l'éditrice, la directrice éditoriale de Noël, ayant vu ces données, m'a proposé de faire ce livre d'infographie chez De Noël qui s'appelle « Le Proustographe », qui lui, effectivement, consiste en une centaine d'infographies, de plans, de graphiques divers et variés.
Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris, justement, Nicolas Ragoneau, dans ces centaines d'infographies ? Si vous deviez en citer qu'un, par exemple, de vos nombreux graphes, quelle est la donnée qui vous a surpris, bouleversé, impressionné ?
On parle toujours de la longueur de la phrase proustienne et on a tendance à le réduire un petit peu à ça. Évidemment, le style de Proust ne se résume pas à ça, mais c'est quand même une caractéristique assez incroyable parce que les travaux lexicométriques, notamment de deux chercheurs qui s'appellent Cyril et Dominique Labbé, permettent de montrer que l'amplitude de la phrase proustienne est sans pareil. La phrase proustienne s'étend de un mot à 931 mots à la recherche du temps perdu. Et évidemment, pour pouvoir dire que c'est exceptionnel, il faut pouvoir comparer cela à un corpus de phrases dans des romans de l'époque de Proust. Et si on compare ça, par exemple, aux phrases de Paul Bourget ou d'Anatole France, qui étaient deux écrivains extrêmement populaires à l'époque de Marcel Proust, on voit que les phrases de Paul Bourget ou d'Anatole France ne dépassent quasiment jamais les 85 mots quand Proust va de un mot à 931 mots. Donc la longueur de la phrase proustienne est tout à fait significative. Et puis surtout, quand on lit la recherche, on est confronté à des phrases de plus de 50 mots pendant plus de la moitié de la lecture. Et ça, c'est tout à fait unique dans la littérature française.
Alors là, on parle justement beaucoup de chiffres et de mots. Puis je crois que vous avez aussi analysé les occurrences de différents verbes qui sont utilisés à la recherche. Et il y a beaucoup de verbes qui réfèrent à l'optique, au regard, à voir. Vous avez même une infographie qui s'appelle « Le voyeur absolu ».
Oui, j'ai emprunté ce titre d'ailleurs à un texte qui a été publié aux éditions du Seuil. Proust a une obsession pour le regard et cette obsession rejaillit de façon très très précise à l'intérieur de son grand roman, puisqu'on a le champ sémantique du regard, de la vue, qui revient, je dirais, d'une façon très supérieure à ce qu'on peut observer par ailleurs dans un corpus de plus de 100 romans de contemporains de Proust. Donc ça, c'est très étonnant. Mais la question des prénoms est aussi très intéressante. Par exemple, le nom de Swann va devenir un prénom au début des années 80. Et ça, j'en avais l'intuition, en fait, en écoutant autour de moi le fait que des enfants commençaient à s'appeler de plus en plus Swann, mais il fallait encore le vérifier. Et ça, on peut le vérifier, au fond, par les statistiques de l'INSEE, qui montre une augmentation absolument considérable du prénom Swann à partir des années 80. Peut-être je vous donne un chiffre. En 1980, il y avait 10 garçons qui étaient prénommés ainsi par leurs parents. Et en 2019, ils étaient 356. Donc ça n'en fait pas un prénom à la mode, mais ça fait quand même une augmentation de 3460%. Et Swann est aussi devenu un prénom féminin. Alors, est-ce que Swann... c'est un prénom qui a été influencé et donné à des enfants en pensant à Marcel Proust? Pas toujours. Il n'y a pas besoin de lire Proust au fond aujourd'hui pour avoir une idée de ce que Swann a pu être. Mais si on prend par exemple un comédien qui s'appelle Swann Harlow, on sait très bien que ses parents lui ont donné ce prénom en pensant à La Recherche. Donc au fond, les données longues et profondes, les datas nous permettent de vérifier un certain nombre d'intuitions et de voir comment dans le réel, autour de soi, la recherche est assez présente. C'est un livre qui est assez présent.
Bien, et on l'aura bien compris et bien entendu, Nicolas Ragoneau. Donc je renvoie nos auditeurs et auditrices au Proustographe pour avoir ce subtil mélange entre la donnée, le big data et la recherche. Merci beaucoup Nicolas Ragoneau d'avoir été avec nous ce soir dans Le Meilleur des Mondes. Petite question à vous deux, Jérôme Bastianelli et à Cécile Leblanc. Quand on regarde le nombre de traductions, le nombre de thèses, le nombre de recherches à travers le monde, il se passe peut-être pas une journée sans qu'il y a quelqu'un qui s'interroge justement sur la recherche pour en faire du big data, pour l'innover d'un point de vue économique, etc. Comment on peut expliquer ça? C'est une œuvre totale qui touche tout le monde, qui est universelle.
C'est une œuvre qui peut toucher tout le monde, oui. Et c'est ce qui est fascinant en fait, c'est que c'est une œuvre qui, comme on vient de l'expliquer, sur le volet de la modernité, mais aussi sur le volet historique, qui est complètement incrusté dans son époque. Proust va parler de l'affaire Dreyfus, va parler de la Première Guerre mondiale, qui sont des événements qui sont maintenant un petit peu lointains pour nous, et pourtant va donner l'impression au lecteur contemporain de Proust qu'il parle de lui. C'est-à-dire que le lecteur aujourd'hui, celui qui découvre l'œuvre de Proust, quand ça prend, comme dirait Roland Barthes, il va avoir l'impression que les aventures, les sentiments du héros, les analyses psychologiques du héros sont celles qu'il a pu mener lui-même. À un moment donné, forcément, je ne connais pas un seul lecteur de Proust qui soit allé jusqu'au bout sans se dire à un moment, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et ça marche malgré la distance des siècles, et ça marche aussi malgré les distances géoculturelles. C'est-à-dire que c'est aussi pour la même raison que quelqu'un qui est au Japon, quelqu'un qui est au Mexique, quelqu'un qui est en Afrique, quelqu'un en Amérique du Nord, pour les mêmes raisons, même si ça lui parle de... Même si c'est un roman qui est incrusté dans le monde, le milieu parisien, français, au tournant du XXe siècle, et bien ça va lui parler aussi parce que Proust, malgré tout, arrive à parler à tout le monde. Et ça, c'est absolument incroyable. Et ça explique pourquoi il y a toute une communauté de gens qui n'arrêtent pas, qui grandit et qui n'arrêtent pas de penser à Proust tous les jours.
Cécile Leblanc, vous pensez à Proust tous les jours?
Oui, je pense. Effectivement, parce que depuis que j'ai commencé à le lire à mon adolescence, j'ai toujours trouvé quelque chose, une sorte de miroir ou des réponses à tout un tas de questions que je me posais. Mais je pense qu'il y a quand même aussi un petit phénomène de mode. Parce que finalement, la recherche, enfin les allusions à Proust, on a toujours relu Proust, on ne l'a jamais lu, les gens disent jamais qu'ils l'ont lu, ils l'ont toujours relu ou ils sont en train de le relire. Et ça date à peu près des années 70-80. C'est-à-dire que dans les années 50, il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à Proust. Hein. Sartre a quand même dit que Proust était une sorte de petit bourgeois, de grand bourgeois. C'est relativement récent, ce grand phénomène proustien. Et puis, je pense que Proust aussi a eu l'intelligence de masquer les technologies. C'est-à-dire que la technologie, finalement, c'est ce qui démode énormément un film ou un texte. Parce que, comme ça avance tout le temps, ce qu'on faisait il y a 10 ans, ça nous paraît très très loin. Et justement, quand il utilise le pianola, bon, il fait jouer par Albertine du pianola, mais lui, quand il analyse l'œuvre de Wagner pour nous dire qu'elle ressemble à Vinteuil, que Tristan, c'est le grand-père de Vinteuil, en quelque sorte, ou des œuvres de Vinteuil, eh bien, dans les brouillons, il étudiait au pianola, dans le texte définitif, c'est au piano. C'est-à-dire qu'il est revenu à une sorte de classicisme intemporel pour que, justement, son roman ne soit pas daté par les technologies. Et ça, je trouve que c'est très, très fort.
Oui, ça me fait penser, justement, au dernier épisode de James Bond qui est sorti au cinéma aujourd'hui, mais qui a été tourné il y a 2 ans avec tout un tas de placements de produits, d'objets de technologie qui sont déjà dépassés.
Et oui,
2 ans après.
Bien sûr.
Et voilà. Et Marcel Proust n'a pas commis l'erreur. Voilà, de 007, effectivement. Alors, on va poursuivre, justement, notre aventure technologique avec Marcel Proust en accueillant Marie Turcan, qui est notre chroniqueuse, rédactrice en chef du média Numérama, dont nous sommes partenaires. Et déjà, bonsoir Marie.
Bonsoir.
Et Marie, vous êtes partie évidemment sur Proust, mais à votre manière.
Un petit pas de côté. Alors, vous l'avez mentionné hein, au cours de cette émission, l'œuvre de Proust est marquée par les sensations. Il entend, il effleure, il appuie, il hume, il goûte. C'est à travers ces 5 sens que l'auteur explore vraiment les émotions liées aux souvenirs. Alors, on connaît la Madeleine, bien sûr, mais il y a aussi ce pavé, un peu moins élevé que le précédent, sur lequel il marche, dans l'hôtel de Guermantes, et qui le propulse à Venise. Ce que décrit Proust, avec tant d'applications, la technologie cherche frénétiquement à le reproduire. Récemment, des scientifiques ont, par exemple, créé un robot avec une peau artificielle, le rendant capable de vous faire un câlin en toute sécurité. Grâce à des petits capteurs collés sur son corps, il parvenait à comprendre les notions de température, d'accélération ou de proximité, et donc de vous enlacer sans risque, par exemple de vous broyer la colonne vertébrale, ce qui serait un peu dommage. Mais ce type de recherche n'est pas limité aux robots. Le grand enjeu du 21e siècle, pour beaucoup de grosses entreprises de la tech aujourd'hui, se situe dans le monde virtuel. Un endroit où chacun et chacune se connecterait tous les jours pour vivre une partie de son expérience. Vous pensez que ce projet est délirant ? C'est pourtant proche de ce que développe Mark Zuckerberg aujourd'hui, le patron de Facebook. Ce lundi, par exemple, il a annoncé le recrutement de pas moins de 10 000 personnes sur 5 ans pour créer ce qu'il appelle un métaverse. Alors son projet n'est pas très éloigné de l'univers du film Ready Player One, dans lequel des êtres humains enfilent des casques de réalité virtuelle pour plonger dans l'oasis.
Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent.
Tu le sens, ça ?
Ouais. C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un.
Le métaverse dont Zuckerberg rêve est une sorte d'internet du futur, dans lequel on naviguerait en 3D avec des casques et des capteurs. Mais pour que les humains désirent rester dans ce monde le plus longtemps possible, il faut que celui-ci soit le plus proche de notre réalité, d'où l'impérieuse nécessité de la réplication sensorielle.
Alors comment justement la tech fait-elle pour reproduire les 5 sens de manière virtuelle ?
Dans Ready Player One par exemple, tous les participants ont des gants avec des retours haptiques. Ils leur donnent l'impression de sentir vraiment l'objet qu'ils effleurent virtuellement. Dans notre monde à nous, Facebook développe exactement ce type de gants connectés. Ils reproduisent les sensations par un système de pression hydraulique microscopique. On peut également parler de Tesla Suit, par exemple, une entreprise qui a créé une sorte de combinaison moulante connectée qui reproduit les sensations avec des stimuli électriques. Mais rappelez-vous la phrase du temps perdu. « La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. » L'odorat et le goût sont les vecteurs les plus puissants d'émotion. Or, ils sont aussi les plus difficiles à reproduire virtuellement. Il existe bien des sortes de grosses cabines dans lesquelles on va vaporiser des senteurs sur des porteurs de casques de réalité virtuelle. Mais l'immersion demande beaucoup de place et un grand nombre de parfums pré-enregistrés. Or, c'est bien la spécificité des odeurs du monde réel qui permet à Proust d'explorer la mémoire involontaire. Il écrit « L'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes ». Un peu comme pour rappeler à Zuckerberg qu'il est encore loin de faire le poids face à la saveur unique d'un doux gâteau trempé dans une tasse de thé.
Et voilà pour Mark Zuckerberg. Merci beaucoup Marie Turcan. Qui veut réagir ? Oui, Jérôme Bastianelli.
Oui, alors c'est intéressant et sans doute ce système aurait intéressé Proust qui, effectivement, dans le dispositif de mémoire involontaire, c'était une manière aussi de faire revivre des sensations. Donc peut-être qu'il aurait été intéressé par ces nouvelles technologies de virtualisation des sensations oubliées. Et puis ça m'a fait aussi penser à ce qu'il dit du rêve, en fait, parce qu'il y a beaucoup de pages sur le rêve, sur la vie qu'on mène en dormant. Et il s'interroge sur les raisons pour lesquelles on considère qu'elles sont moins réelles, que ces émotions et cette vie qu'on mène la nuit est moins réelle que la vie qu'on mène le jour quand on est éveillé. Je trouve qu'il y a sans doute un parallèle à faire et qu'il aurait peut-être fait en découvrant ces inventions de Mark Zuckerberg.
Cécile Leblanc.
Oui, et puis je pense aussi qu'il avait même peut-être été encore plus loin en inventant en quelque sorte l'odorat virtuel, puisque quand il écoute Péléas et Mélisande et qu'il y a eu cette odeur de rose qui flotte, il dit que ça l'empêche de respirer, ça aggrave son asthme. Et comme d'ailleurs les roses du papier peint quand il déménage rue Hamelin, il peut absolument pas dormir dans une chambre avec des roses ou un papier peint à roses parce que ça lui donne des étouffements. Donc finalement, l'odorat est totalement virtuel, il n'y a pas besoin de sentir les choses pour que l'odorat produise quelque chose sur le corps.
Alors nous avons ouvert cette émission avec Hiroya Sakamoto. Je voulais poser une dernière question justement en lui demandant, tiens, vous qui êtes un grand spécialiste des technologies chez Proust, si Proust était avec nous aujourd'hui en 2021 ou demain en 2022 à l'occasion du centenaire, comment il aurait réagi et comment il aurait utilisé les technologies de notre temps ?
Il est assez amusant d'imaginer Proust voyageant dans le temps, non pas à la recherche du temps perdu, mais du temps futur. S'il avait atterri sur notre présent, il aurait été curieux et sans doute émerveillé des technologies nouvelles. Je rappelle qu'il était un des premiers usagers du téléphone de l'automobile à la fin du 19e siècle. On sait qu'au début, le jeune Marcel méprisait, dédaignait et éloignait le téléphone, d'après une lettre de sa mère. Mais il a fini par tirer profit de cette invention, non seulement pour sa vie privée, une vie confinée si l'on veut, mais aussi pour son œuvre littéraire. Il était aussi abonné au Théâtre-Phone, comme il s'est abonné à ce service en 1911 pour écouter notamment Péléas et Mélisande. Il se serait sans doute abonné au podcast de France Musique, à plusieurs services de vidéos à la demande, Netflix, Amazon Prime Video. Il aurait peut-être alors changé d'avis sur le cinéma, qu'il critiquait comme une simple reproduction de la réalité. En tout cas, ce qui est intéressant à signaler, c'est que dans Jean Santeuil, Proust considérait le poète comme quelqu'un qui est dans une cabine téléphonique, qui peut être en communication avec la beauté du monde entier, tout en restant immobile. Cette image de réseau de communication revient dans La recherche temps perdu et elle a une double signification. D'un côté, le réseau est associé à la création littéraire. Proust conçoit son roman un peu comme un riche réseau de souvenirs qui ne laisse que le choix de communication entre le moindre point de notre passé et tous les autres. C'est une station du temps retrouvée. Mais de l'autre côté, la métaphore du réseau est liée au thème de souffrance de l'amour, de l'être aimé insaisissable, non localisable, qui suscite une jalousie irrémédiable. Avec la technologie numérique de l'ubiquité, avec le smartphone et les réseaux sociaux, l'héroïne Albertine aurait été peut-être plus inquiétante encore. Enfin, le numérique change la pratique de lecture. Proust aurait été très content de voir qu'on lit son roman sur des tablettes, mais il aurait aussi regretté la matérialité du livre, parce que le livre, comme objet, est aussi un sport de mémoire personnelle.
Voilà, c'était Hiroya Sakamoto. Jérôme Bastianelli, vous êtes d'accord avec...
Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est un excellent résumé. Puis ça m'a fait penser, si vous me permettez d'en parler, la Société des Amis de Marcel Proust, qui, entre mille choses, organise un concours de pastiche proustien tous les ans. On va lancer notre nouvelle édition. Et un des pastiches qui a reçu un prix l'année dernière, c'était justement imaginer que Albertine et le narrateur communiquaient par Messenger, par WhatsApp, et toute le décuplement de la jalousie que ça pouvait procurer quand on sait que quelqu'un reçoit un message mais n'y répond pas, et pourquoi n'y a-t-il pas répondu alors qu'il l'a vu. Enfin, on peut imaginer toutes les pages que Proust aurait rédigées s'il avait utilisé WhatsApp avec Albertine ou avec Alfred Agostinelli.
Cécile Leblanc.
Oui, je pense que Proust aurait beaucoup tweeté parce que on le voit pendant la guerre, quand les gens écrivent des choses trop idiotes sur la culture allemande qu'il faut éviter parce qu'on est en guerre avec l'Allemagne, il passe sa vie à écrire à ses amis mais c'est scandaleux cet article du Figaro, héros, mais c'est absolument... Donc il réagit tout le temps, il réagit beaucoup sur les événements de l'époque. Donc je pense que ça aurait été un grand tweeter. Et comme Saint-Saëns d'ailleurs, ce sont des gens qui tweetent, qui auraient facilement tweeté.
Et bien voilà, c'était le meilleur des mondes et la technologie dans l'œuvre de Marcel Proust. Et inversement, Marcel Proust dans la technologie avec une petite partie de fiction. On l'a projeté en 2021. Merci à vous deux, Jérôme Bastianelli et Cécile Leblanc, de m'avoir accompagné pour cette émission spéciale. Je remercie Charles Dantzig qui coordonne aussi les émissions sur Proust. Une petite mention spéciale aussi à Guillaume Faux et Michel Chaillou pour leurs précieux conseils. À la préparation de cette émission, c'est Juliette Devaux qui m'a activement aidé à préparer cette émission sur Proust. À la réalisation, Vanessa Nadjar et son pianola. Et à la technique ce soir, Sofiane Agdib. Le meilleur des mondes, c'est terminé.
Un podcast France Culture à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France.